Le journal Violette Ferreira, bonjour.
Bonjour Léo, bonjour à toutes et à tous. La saison estivale est lancée et avec elle les marchés d'été. Ce matin à Tavannes, le marché artisanal accueillait un stand d'information inhabituel. Il concerne le réaménagement de la place de la gare. Le maire de la commune nous présente les détails dans ce journal. L'actualité, c'est aussi ce demi-millénaire célébré par la communauté anabaptiste pour commémorer l'anniversaire du mouvement religieux. Des portes ouvertes vont se dérouler cet après-midi à la Tanne. Aussi ouvre ses coulisses au public, le torréfacteur chaudfonnier La Sommeuse célèbre ses 125 ans cette fin de semaine. Pour l'occasion, les dirigeants ont fait venir un producteur du Pérou. Du soleil et un mercure qui grimpe, c'est le menu de la météo du jour. En pleine comme sur les hauteurs, le mercure va frôler les 32 degrés dans le Ceyland, 29 dans les vallons et 21 degrés sur les crêtes. En fin de journée, des orages isolés pourraient faire leur apparition sur les hauteurs. Quel visage pour la place de la gare à Tavannes. Aujourd'hui, les autorités présentent le réaménagement de ce lieu stratégique pour la commune. Un stand avec maquettes et panneaux explicatifs est présent au marché artisanal. Les citoyens sont invités à se prononcer sur la version de l'avant-projet qu'ils préfèrent entre deux propositions présentées par le cabinet d'architectes biennois. Un questionnaire sur leurs habitudes et attentes est aussi proposé. Ce projet n'est toutefois pas nouveau et il intervient à un moment bien précis. Fabien Vorpe, maire de Tavannes.
La commune a souhaité donc profiter des travaux que les CFF et les chemins de fer du Jura entreprennent pour refaire à notre place. Et puis là, nous vous présentons une maquette d'un avant-projet, quelque chose qui a déjà été passablement réfléchi, que ce soit au niveau des accès, de l'utilisation de la place et la conservation des places de parc qui a été aussi un grand sujet de discussion.
Quelque chose qui a passablement été réfléchi parce que ce n'est pas un projet qui est récent, il est dans les cartons depuis un moment.
Absolument, oui. Qu'on y pense, ça fait quelques années. Concrètement, qu'on penche dessus, ça fait bien 6 mois, 1 année. Ça commence à être relativement mûr, mais on souhaite le présenter à la population, qu'elle puisse aussi, elle, réagir dessus. Rien n'est inscrit dans le marbre, si on peut le dire comme ça, pour l'instant. On a un avant-projet et puis on aimerait travailler sur une base.
Le stand de présentation du réaménagement de la gare à Tavannes est visible sur place au marché artisanal jusqu'à 14h. Les Verts du Grand Chasseral lancent Cyprien Louis dans la course pour les élections au Conseil exécutif 2026. Annonce faite aujourd'hui à l'issue de l'Assemblée générale du groupe politique. Cyprien Louis est aussi membre du Conseil du Jura bernois depuis 2018 et conseiller général à la Neuville. Notez toutefois que l'ensemble de la gauche régionale se prononcera à la fin août sur la candidature commune portée lors des prochaines élections au Conseil exécutif. Le mouvement anabaptiste fête son demi-millénaire en Suisse. En 500 ans, les fidèles de ce mouvement religieux qui donnera naissance aux Mennonites ont été chassés avant de se réfugier sur les crêtes du Jura notamment. Dans le cadre de cet anniversaire, la fondation Héritage anabaptiste située à La Tanne organise une journée spéciale aujourd'hui avec visite des archives. Parmi les précieux documents qui seront visibles, certains datent du XVIe siècle. Et il y a justement une Bible qui sort du lot. Anseli John Gerber, membre du conseil de fondation.
Là, vous avez des Bibles très très rares. Ça, c'est une Bible paraphrasée qui est en fait une traduction de Zwingli à Zurich, mais à laquelle les anabaptistes avaient participé. Et les anabaptistes étaient connus pour lire cette Bible-là. C'était le moyen de savoir qui est anabaptiste. Ceux qui étaient envoyés par les autorités pour arrêter les anabaptistes, on leur disait il faut trouver quelle Bible ils utilisent. Comme ces officiers ne savaient pas lire, ils ont reconnu la Bible à sa page de couverture. Alors du coup, les anabaptistes ont arraché cette première page pour pas qu'on puisse voir tout de suite de quel genre de Bible il s'agit. Et puis c'est une des rares Bibles qui a cette page de couverture.
Les portes ouvertes des archives Mennonites Suisses se déroulent aujourd'hui de 14h à 17h à la chapelle du Jean-Guy. Le stand de Moutier est en ébullition. Le festival Stand d'été démarre officiellement aujourd'hui avec la première présentation de l'opéra Nabucco. Des jeunes de la région ont eu l'occasion d'en découvrir les coulisses cette semaine. Olivier Sano les a accompagnés.
ce n'est pas tous les jours qu'on peut assister à un opéra, encore moins de profiter d'une visite privée en coulisses, sur scène ou dans la fosse. Ce mercredi, le directeur musical de l'opéra Nabucco, Facundo Agudin, a donné cette possibilité à des élèves de dernière année. Il leur a aussi présenté celles et ceux qui font de l'opéra cette œuvre si particulière.
Le collègue que je vais vous présenter maintenant, il s'appelle Alfonso. Et Alfonso, hello, viens, Alfonso, viens. Et Alfonso est le metteur en scène. Il y a deux, dans un opéra, il y a deux directeurs, en fait. Il y a un directeur musical et il y a un directeur théâtral. Le directeur musical contrôle tout ce que vous allez entendre. Et le directeur théâtral contrôle tout ce que vous allez voir.
Alors ça, c'est un spectacle, principalement, c'est la musique, c'est la voix. Les gens chantent et doivent aussi faire bien comprendre à les publics l'histoire avec les décors. Alors c'est vraiment difficile pour les chanteurs et les chanteuses, et aussi pour le directeur, pour le chef d'orchestre. Mais la musique a l'incroyable puissance d'arriver à le corps des personnes. Ça, c'est très beau. Et maintenant, on peut monter sur les plateaux. Et vous pouvez comprendre qu'est-ce que nous prouve quand nous regardons le public. Hein? C'est un peu... parce que c'est incroyable. Mais ici, je suis moi. Ma vie normale. Eh? Il suffit 10 centimètres, 1 centimètre, eh? Je suis une autre chose. Je suis le personnage.
Un petit tour par les coulisses où les cordes vocales se chauffent, puis vient la répétition... puissante, impressionnante. Les jeunes sont interpellés par le charme du lieu, ce lieu de culture, ancien stentir qui abritait même un mur d'escalade fut un temps. Cette élève, elle, a déjà connu l'opéra en Italie. Comparaison.
En vrai, c'est vraiment joli. Enfin, je dis pas c'est moche, mais en vrai, en Italie, c'est quand même beaucoup plus grand. Enfin, c'est plus... je sais pas, mais il y a un truc en mode chaleureux en plus. Je saurais pas dire quoi.
Vous avez pu avoir des explications un petit peu de tout ce que ça implique, un opéra. C'est quoi qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez vu dans la visite?
J'ai vu déjà, il y a beaucoup d'instruments. Puis même si c'est petit par rapport à d'autres endroits ici, il y a quand même une relativement grande scène. Il y a beaucoup d'instruments. Et c'est intéressant, puis après j'attends de voir du coup l'opéra pour me faire une meilleure idée.
Ça fait toujours un peu bizarre d'entendre des voix autant belles, hein, des voix d'opéra, ça fait un peu bizarre, on n'entend pas ça tous les jours. Moi je commence un peu à avoir l'habitude parce que je fais le spectacle ici Carmina Bolero dimanche prochain. Puis il y aura une bonne chorale de 100 personnes.
L'opéra, on a tendance à penser que c'est quelque chose d'un peu vieillot ou bien alors réservé plutôt à une certaine élite. Tu partages cet avis-là ?
Non, franchement, l'opéra, je pense que c'est ouvert à toutes et tous, comme la musique. Et puis franchement, il n'y a aucune limite, hein, que ce soit dans l'élite ou alors même qui dénonce la pauvreté, comme les premiers opéras. Franchement, c'est ouvert à tous, ce genre de spectacle.
Nabucco, ça commence dès ce soir à Stand'été. 3 autres représentations sont prévues dimanche, mardi et mercredi.
Un reportage d'Olivier Sano dans les coulisses du festival Stand'été à Moutier. C'est la fête à la semeuse. Le torréfacteur chaudefonnier célèbre ses 125 ans. Pour l'occasion, l'entreprise a vu les choses en grand. 2 journées, 2 portes ouvertes. Les festivités ont débuté hier et les visiteurs n'étaient pas que chaudefonniers. Des Balois, Vaudois et Fribourgeois ont fait le déplacement. Pour fêter cet anniversaire au mieux, les dirigeants de l'entreprise ont fait venir du Pérou un de leurs producteurs, Gino Marine, de la coopérative Yanecha.
Un viaje largo porque es de Villarrica a la capital, c'est 8 heures en voiture et après 16 heures jusqu'ici.
La Chion Lafo, quasi como 16 heures.
C'est une région au centre du Pérou, habitée par des Yanecha, c'est les locaux, les indigènes qui cultivent le café dans des altitudes entre les 800 et les 1950 mètres. C'est environ 240 hectares de culture de café, les propriétaires de ces petites parcelles. Ça va entre la demi-hectare et 2,5 hectares.
En total, en hectares, nous avons 238 hectares totales de café de los socios.
Ça fait combien de temps que vous travaillez avec la semeuse ?
Con la SEMUS, venimos trabajando desde el 2000...
Depuis 2023. Ils vont dans la semeuse, de l'arabica principalement, et un petit peu de robusta.
Un poco de especialidad que es el robusta.
Vous présentez quoi ici? Vous êtes pas venu les mains vides?
Las muestras de café cereza.
Ils veulent laisser connaître les cerises du café, que pas beaucoup de gens connaissent. Tout le monde connaît les grains, mais pas la cerise originale. Je vais amener quelques échantillons de cerises de café.
Non, initialement, la que cosechamos nosotros, non?
Des propos traduits par Jaime, un collaborateur de la semeuse. Les portes ouvertes du torréfacteur Chaudefonnier se poursuivent jusqu'à 16h. 67 victimes de violences sexuelles allant des gestes déplacés jusqu'au viol. L'abbaye de Saint-Maurice, dans le canton du Valais, est mise en cause dans un rapport paru hier. Un groupe d'enquête mené par l'Université de Fribourg a fouillé dans les archives de l'abbaye et entendu une soixantaine de témoignages depuis plus d'un an. Le résultat pointe de nombreux cas d'abus, ainsi que le dysfonctionnement de l'institution religieuse qui a préféré passer sous silence depuis 1950 tous ces actes. Toutefois, le groupe de chercheurs tient à souligner que le nombre de victimes est certainement sous-estimé. Stéphanie Roulin, historienne à l'Université de Fribourg.
On le sait, dans la recherche, des témoins ne veulent pas témoigner. Certains sont décédés, donc c'est un témoignage qui ne nous parviendra jamais. D'autres ne peuvent pas témoigner, soit parce qu'ils considèrent que c'est trop dur pour eux, que le coût en fait, psychologique de débarrer une procédure où il va falloir réexpliquer les choses est trop difficile, soit aussi, nous le savons pour des échos qui nous sont parvenus, au départ en tout cas il y avait une méfiance à l'égard de notre groupe de travail indépendant, justement qu'on ne soit pas vraiment indépendant et qu'on porte la parole de l'abbaye. Donc on peut s'imaginer, c'est un peu des spéculations, qu'un certain nombre de témoins n'ont pas voulu témoigner en attendant d'abord ce que ça allait donner.
L'abbaye de Saint-Maurice a annoncé plusieurs mesures comme un meilleur travail de mémoire et une meilleure formation de ses membres. 270 millions de francs pour la Genève internationale. Le Conseil fédéral tient à montrer son attachement au multilatéralisme, alors que les coupes budgétaires américaines mettent en difficulté de nombreuses organisations basées en Suisse. Le gouvernement a adopté hier un paquet de mesures stratégiques pour renforcer la Genève internationale ces 4 prochaines années. Il a prévu d'augmenter de 5% le crédit cadre versé jusqu'ici et débloquer un soutien financier immédiat en 2025 et 2026. Le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, s'est entretenu cette semaine avec le secrétaire général des Nations Unies. Il voulait s'assurer que les investissements prévus seraient bien accueillis par l'ONU. Ignacio Cassis.
Le secrétaire général a exprimé sa reconnaissance envers la Suisse pour son engagement constant. Il m'a confirmé que la Genève internationale reste un pôle stratégique incontournable au sein du système onusien, où continueront de se concentrer les actions politiques et les axes prioritaires du multilatéralisme de demain. Il a également souligné l'importance du soutien suisse à la rénovation du Palais des Nations, auquel la Confédération, le canton et la ville ont contribué à hauteur de 400 millions de francs. Un investissement d'envergure, porteur de sens, qui incarne concrètement notre attachement à un multilatéralisme efficace et crédible.
L'initiative du Conseil fédéral s'inscrit dans une approche coordonnée avec le canton et la ville de Genève. Le crédit cadre pour ces 4 prochaines années doit encore être avalisé par le Parlement.
Midi 28,
RJB, Sport.
Lausanne Sport a officialisé aujourd'hui l'arrivée de Peter Zeidler au poste d'entraîneur. Le technicien allemand succède à Ludovic Magnin qui vient de signer à Bâle. La durée de son contrat avec le club vaudois de Super League de football n'a pas encore été précisée. Il a auparavant dirigé Saint-Gall après être passé par Tours, Salzbourg, Sion et Sochaux. Les pilotes suisses de Formule E ont brillé aujourd'hui à Jakarta, même si la victoire leur a échappé. Le Genevois Eduardo Mortara a pris la 2e place, juste devant le Bernois Nico Müller. La victoire est revenue au Britannique Dan Tiktum sur le circuit indonésien. C'est la fin de cette édition. Bon appétit.
RJB Sport.